Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Tant pis.
Bonjour, vous écoutez l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Et ce mois-ci dans EPO, ça va sentir le cambouis, le gazole et le pneu cramé puisqu'on parle bagnole. Et plus spécifiquement, on parle de Formule 1. 1994, Imola, petite ville italienne de la côte adriatique, s'apprête à accueillir le troisième Grand Prix de la saison sur le circuit Enzo et Dino Ferrari. Alors qu'un duel alléchant s'annonce entre le triple champion du monde, Ayrton Senna, et le jeune Michael Schumacher, le Grand Prix de Saint-Marin deviendra le triste théâtre d'une succession d'accidents et de drames qui surviendront durant un week-end cauchemardesque, faisant deux morts parmi les pilotes, dont le triple champion brésilien, et une dizaine de blessés. Et comme dans les moments difficiles, plus encore, il vaut mieux être bien accompagné que seul, j'ai la joie de recevoir mes fidèles copilotes, sans qui les sorties de route seraient inévitables, Sarah, Olivier et Younes.
Bonsoir.
Vroom vroom.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Voilà, vous avez mis vos casques, vous avez accroché vos ceintures, réglé vos rétros, tout est bon ?
Oui.
Oui.
Voilà, on va se lancer, mais avant de se lancer sur la piste, on va évidemment s'écouter un triste extrait.
14h16, la caméra embarquée dans la voiture de Schumacher est braquée sur la Williams Renault d'Ayrton Senna. Lorsque celle-ci, pour des raisons encore inconnues, quitte la piste à près de 260 km/h. Entre l'instant où Senna perd le contrôle de sa voiture et l'instant où il heurte le mur, une seconde à peine s'est écoulée. L'impact contre le mur est significatif, le choc a été terrible. Rapidement, le Brésilien est secouru. Mais il va rester de longues minutes inanimé dans sa voiture. Toutes ces images sont retransmises en direct dans le stand Williams Renault. C'est la consternation.
Et oui, c'est la consternation. Donc, c'était un extrait du 20h de France 2 du 1er mai 1994.
Et ça fait rire tout le monde, pardon. C'est bien.
Bon, désolé. C'est tragique, merde, les gars.
C'est tragique.
On
oui, ouais,
parle
ouais.
de la mort d'Ayrton Senna, merde.
Non, c'est grave. Émotion, puis, ça fait beaucoup d'émotions. Moi aussi, calme-toi.
Ouais, non, mais puis ça fait partie de mes souvenirs d'enfance. Et
Non, mais t'étais déjà adulte, t'étais en retraite déjà.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, j'ai essayé de tricher sur mon âge, mais non, effectivement, c'est un souvenir assez vif.
Mais tu l'as vécu alors ?
Je l'ai vécu, ouais.
C'est bien d'avoir un vieux dans l'émission.
Ah ouais. Bah ouais, forcément, je l'ai vécu, ouais. Et donc,
tu t'as regardé Grand Prix en direct ?
Je l'ai regardé en direct, ouais.
C'est vrai,
je suis fan de F1 en fait. Enfin, je suis fan de F1, j'essaie de suivre.
J'ai vu que t'avais garé la tienne là.
Ouais, mais ça fait du bruit, les voisins font chier avec ça. Quoi. Ouais, ouais.
Tu t'es dit tout de suite qu'il était mort ou
non.
Pas du tout, t'y croyais pas ?
Non, j'y croyais pas. Je me suis dit, déjà, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais son statut.
Non, on a que ton témoignage, après on arrête.
Non, mais en fait, le souvenir précis, c'est que c'était au retour de la page publicitaire que tout est arrivé en fait.
La page de réclame.
Les réclames. Ouais.
Oui, non mais c'est ça qui est
Mon
fou.
Mon cousin
c'est qu'en fait...
me dit, Senna a pris un mur. Et du coup, il y a eu un accident. Et du coup, le Grand Prix était suspendu quasiment. Je crois que ça a duré presque une heure. Dans mon souvenir, ça a duré super longtemps, en fait, la suspension.
C'est plus court.
Un peu moins, oui.
En tout cas, c'est un souvenir. Et pour le coup, effectivement, au retour de la publicité, on découvre en fait qu'il s'est passé un acte du Grand Prix hyper important.
J'ai délire, un acte de vandalisme. Un acte qui a crapé sur sa putain de bagnole.
Un acte du Grand Prix. On retournait plus bien le commentateur.
Un fait de jeu.
Alors là, il s'est passé un acte du Grand Prix.
Non, mais c'était un moment suspendu de ma vie. Ouais.
D'accord. Vous, alors Olivier et Sarah, vous en avez rien à foutre de la
ouais.
Formule 1.
La
quoi ?
Tout à fait.
Ouais, la F1. Alors vous, la F1.
Bah ouais, non, rien. Genre.
Tu suis pas la F1.
Du marbre. Enfin.
Du marbre.
Du marbre.
Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle est bourrée, Sarah.
Sarah est bourrée.
Sarah l'a perdue depuis 17 heures, hein, de toute façon.
Putain, on se croirait dans le Moscato Show là.
Je veux dire que ça me laisse de marbre.
Ah. Ça commence bien.
Et Olivier, t'es de marbre aussi ou t'as un acte de Grand Prix hein.
Non, la F1.
C'était un acte de marbre. Non, moi la F1, moi je crois que j'aime bien ça quand j'en vois. Enfin.
Ok, merci.
Merci Olivier. Toi, Mickaël. Sincèrement.
Alors, moi, je vais vous raconter mon histoire avec la Formule 1.
Ouais.
C'est long.
Oui, c'est un peu long, ouais. J'ai prévu. Bah, je l'ai écrit, ça fait 6 pages. En fait, tous les dimanches, avec mes parents, on allait manger chez des amis à Ruffet-les-Échirés, vers Dijon.
Ouais.
Et en fait, ils avaient un fils
Ah oui. Qui était très gentil par ailleurs, qui se levait à midi parce que le samedi soir il allait en boîte, c'était le dimanche. Et en fait il se levait et il se plantait devant les Grands Prix.
Devant le Grand Prix, ouais.
Et du coup je regardais avec lui, c'est les seuls moments où j'ai suivi. Moi c'était l'époque Schumacher versus Hakkinen en fait.
Ok, Mika Hakkinen contre.
Ouais, mais moi, c'est moi aussi les rares fois où j'ai vu, c'était Hakkinen, Schumacher.
Je me souviens d'un Grand Prix de Belgique qui était spectaculaire où il pleuvait énormément.
Je détestais.
Alors le Grand Prix de Belgique s'appelle le Grand Prix de Spa. Qui a lieu à Spa, oui. Et qui est l'un des grands prix.
Ouais,
monte
pas sur tes grands chevaux, toi.
Ouais, ouais. Non, c'est l'un des grands prix les plus impressionnants aussi visuellement. Donc, effectivement, tu as eu la chance de voir.
J'avais vu un
à la grande époque Schumacher. Voilà.
Exactement.
Ouais, mais justement, en enquêtant un petit peu sur. sur
avec ta petite loupe.
sur Senna, Prost et tout ça. Moi, quand j'ai commencé à regarder la F1, Schumacher et surtout Mika Hakkinen n'étaient pas des gens que j'avais envie de...
d'aimer
vraiment.
Oui.
Bah, Schumacher, personne n'a envie de l'aimer.
Ouais,
en même temps.
Schumacher a du mal à s'installer dans le cœur
surtout après
même des tifosi. Hein, même des tifosi, en fait. Il a été pilote Ferrari et le tenant de tous les records. Mais il a mis du temps.
Record du nombre de Grands Prix, effectivement. Ouais, de championnat. Pardon.
Alors que quand tu regardes un petit peu la rivalité entre Prost et Senna, on en parlera un tout petit peu plus tard, mais...
C'est plus de l'amour.
Il y a plus de romantisme.
Même Niki Lauda, même tout ça. Enfin, ouais. Tu vois, t'avais envie de suivre à ce moment-là.
Oui, il y a plus de romantisme à ces moments-là.
Alors, ouais, vas-y. 1994, alors on va parler effectivement du Grand Prix, principalement du Grand Prix d'Imola, hein. Le tragique Grand Prix. En 94, on va commencer par parler du contexte un peu sportif, justement. En 93, dernière victoire d'un Français en championnat du monde.
Ouais.
Bah ouais, Cocorico.
C'était Alain
Prost. Et oui, Jean, allez-y.
Sur une Williams Renault.
Exactement.
Tout à fait. On rigole, mais Jean Alesi a fini sixième hein, en 93.
Mais c'est pas mal.
D'accord.
Bien sûr.
T'as le classement peut-être, non? Je l'ai pas.
J'ai Alain Prost premier.
Oui.
J'ai Damon Hill.
Non.
Senna en deuxième avec 72 points. J'ai Damon Hill troisième, Damon Hill qui sera d'ailleurs champion en 96 si mes souvenirs sont exacts. Qui est le coéquipier de Prost à l'époque.
Williams Renault
qui est clairement la grande, les grands, enfin qui domine clairement le championnat du monde.
Ils sont champions constructeurs avec 168 points.
Ils sont champions sortants parce que je crois qu'en 92 l'année d'avant c'est aussi quelqu'un de Williams Renault, c'est Nigel Mansell qui est champion du monde. Ouais. Je crois que le quatrième, c'est pas Schumacher ?
C'est Schumacher, le quatrième, exactement.
Et
un petit jeune allemand que...
Damon Hill, qui est un excellent danseur, le fameux salsa
du débat.
Voilà, exactement. Alors, coup de théâtre quand même, entre la saison 93 et 94, puisque Alain Prost...
Prend sa retraite
alors qu'il est champion du monde, au sommet de sa gloire.
Quitte la compétition, ouais.
Et où est-ce qu'il va ? Il va dans une belle écurie aussi, hein ?
TF1.
Il
va rejoindre Jean-Louis Moncey. Johnny Reeves.
Qui sont quand même, alors je sais pas si vous avez revu le Grand Prix, mais qui sont quand même.
Si.
Moi j'ai trouvé assez bon en fait.
Jean-Louis Moncey, j'ai été. Alors parce que oui, donc du coup on a regardé le Grand Prix.
Je suis moins fan de Moncey, moi perso.
Ah,
mais...
moi j'ai trouvé très,
j'ai trouvé très bien
par rapport à ça.
J'ai réapprécié en fait Alain Prost, j'en avais pas du tout le souvenir. En fait, mais j'ai apprécié l'homme pendant le.
Sarah, regarde déjà sa montre. Elle en a déjà marre.
Je vais vous laisser.
Bref, toujours est-il que.
Non, mais t'as coupé Younes là. Laisse Younes s'exprimer un peu, merde.
Vas-y, Younes.
Il m'a coupé la parole.
Bah oui.
Oui, c'est pas parce qu'il s'exprime doucement qu'il faut pas le laisser parler.
Changer de place. Oui. Olivier, tu viens à côté de moi, je te mets une calotte quand tu pousses Younes.
Voilà.
Quand tu pousses.
Non, j'ai réapprécié en fait Alain Prost que j'aimais pas spécialement quand j'étais plus jeune parce que j'étais fan d'Ayrton Senna et en fait en revoyant en fait ces images je l'ai trouvé assez touchant et très impliqué par rapport à la sécurité à des tonnes de choses. Alors... donc effectivement c'est un moment un peu pénible à revivre mais finalement tu réapprécies en fait un homme.
Par contre, t'as dépassé ton quota de mots, Younes.
D'accord, ok, je ferme ma gueule.
Prost prend sa retraite.
J'ai bien posé une question à Younes.
Pardon.
T'étais plus Senna que Prost.
Je trouve qu'on parle. Une ambiance très mauvaise ambiance. Une très mauvaise ambiance depuis tout à l'heure.
Ah,
je sais pas à quoi c'est dû.
C'est détestable.
Peut-être parce que Sarah est complètement bourré, du coup, ça crée un malaise ici. Mais voilà.
Tu sais les grands duels du sport, Messi Ronaldo, voilà ce genre de choses, Nadal Federer, et à l'époque c'était
Tavares Dioni,
exactement. Non, à l'époque c'était quand tu suivais la Formule 1, c'était Prost ou Senna, donc c'était avec ou contre, c'était l'idée.
Et d'ailleurs il y a eu plusieurs accrochages entre eux sur plusieurs grands prix.
Oui.
Et souvent, c'est Senna qui provoque un peu le choc.
Mais Prost Senna, c'est quand même le coureur, le pilote intelligent contre le
jeune fougueux,
contre le fougueux,
l'instinctif,
le passionné, celui qui va
le romantique. C'est
la raison contre la passion finalement.
Voilà, exactement.
Prost, c'est magnifique.
Du coup, en 93, Prost.
C'est Dionysos contre Apollon.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Un peu ça. Même, c'est vrai qu'il y a un peu de ça.
En tout cas, bienvenue dans les chemins de la philosophie.
Toujours est-il qu'en début de saison 94, donc Prost a pris sa retraite, un peu poussé, dit-on, par Senna, en fait, qui voulait absolument
un volant,
qui voulait courir pour Williams Renault, où on a proposé.
Il était chez McLaren.
Voilà,
avant.
Il était chez McLaren.
McLaren Honda.
McLaren Ford.
McLaren Ford.
Et il pousse un peu Prost à la retraite, dit-on. Il y a des qui étaient chez Williams Renault, qui ne voulaient pas partager encore une fois, qui ne voulaient pas avoir Senna encore une fois comme
dans son
coéquipier. Parce que la rivalité a aussi né du fait que Senna et Prost étaient coéquipiers, pour le coup, chez McLaren. Ouais. Donc Prost a pris sa retraite et Senna a récupéré un volant chez Williams Renault, les champions en titre constructeurs deux fois de suite.
Et alors c'est quand même étrange parce que on y reviendra, mais en fait le jour du Grand Prix Imola, Prost, alors est-ce que c'est du bluff, je sais pas, Prost au micro d'Automoto va dire Senna au micro d'Automoto va dire: Alain, tu nous manques, reviens. Il a jamais été aussi sympa avec Prost d'ailleurs.
En fait, pour repréciser un tout petit peu le contexte, Senna a gagné les deux derniers Grands Prix de la saison 93 quand même, donc il reste avant la saison 94 sur quand même
des victoires
ultra favoris, même s'il y a Schumacher
c'est le grand favori en 94.
Et sur le dernier Grand Prix en Australie, Adélaïde, il invite Prost, il gagne le Grand Prix et il invite Prost sur le podium, je crois que Prost était sur le podium, mais sur la première marche, ils partagent ensemble, voilà, ils font la teuf ensemble ensuite, entre 93, à l'intersaison 93-94, Prost et Senna, je crois que Senna organise un truc de karting ou quoi, de charité.
Tout en bonnet.
chamboule tout.
Il faut parler du karting en fait. En même temps,
voilà, ils sont vraiment réconciliés, soi-disant, comme si le fait que Prost prenne sa retraite, Senna, en fait, ça a toujours été une guerre. On va peut-être pas en parler en détail parce que c'est pas ça qui nous importe aujourd'hui sur la rivalité Senna-Prost. Ça a toujours été une guerre parce que Senna et Prost étaient de telle qualité en termes de pilote qui poussait l'autre à chaque fois à se surpasser. Donc, s'il n'y avait pas cette guerre d'ego entre les deux, je pense qu'ils auraient été les meilleurs amis du monde. Quoi.
Non, mais peut-être qu'ils n'auraient pas été aussi bons. C'est comme Lennon et McCartney. Ils se détestaient. Ils étaient rivaux et c'est ce qui a donné la grandeur.
D'ailleurs, l'année 92, parce que Prost est champion du monde en 93.
C'est beau comme comparaison.
Prost est viré de l'équipe Ferrari. Parce que Prost quitte McLaren, ils étaient tous les deux, Senna et Prost, chez McLaren.
McLaren,
Prost,
Honda.
Prost quitte McLaren pour Ferrari. Il se fait ensuite
la
MP4, virer.
La MP4, c'est une Honda, c'est pas.
Non, mais t'allais passer ton quota de mots, Younes.
Oui, pardon.
Je t'en prie, passe des termes techniques pendant que je parle, Younes. C'est vrai. Prost se fait virer. Pendant son année sabbatique, Senna n'aura de cesse d'appeler Prost pour lui dire: quand est-ce que tu reviens? Tu nous manques, quoi.
Non, c'est fou. Ouais.
Voilà.
C'est fou. Alors, effectivement, tu l'as dit, Senna intègre Williams Renault aux côtés d'Amonil, par exemple. Donc, c'est quand même une belle équipe. Hein,
il
parle pas trop rouge.
Mais
le championnat 94 commence plutôt mal pour Ayrton Senna.
Oui, parce qu'en fait, il va finir aucune des deux premières courses. Et les deux vont être remportées donc, par Michael Schumacher.
Alors, Senna critique énormément la voiture. Donc, il rentre dans cette nouvelle écurie. Il quitte son ancienne famille où il était très protégé, très apprécié du président de Honda, d'Honda. Mm-hmm. Et il arrive dans cette nouvelle écurie, en fait, où le contexte est forcément celui d'un nouveau et dans lequel, en fait, tout de suite, le pilote implique les corrections de la voiture. Il faut savoir que c'est des mécaniques de pointe. Et il trouve que la voiture est difficile à conduire.
Oui. C'est aussi dû à des nouvelles règles aussi qui ont été mises en place, notamment la fin de tout ce qui est assistance électronique. Et on va voir qu'en fait, ça va porter préjudice à la voiture de Senna.
La voiture devient difficile à piloter.
En début de saison 94, il y a beaucoup de règles qui sont liées au fait qu'on arrête un peu l'assistance électronique, justement pour le spectacle. Justement aussi, les pilotes beaucoup moins dirigés électroniquement. L'assistance à la direction.
En général, on essaie de faire ça dans les règlements.
Aussi, qui est supprimé.
On essaie de faire ça dans les règlements de la Formule 1 pour essayer de redistribuer les cartes parce que l'avancée technique d'une écurie ou d'un motoriste prend souvent le dessus et finalement tue un peu le suspense du championnat. Ouais. Ouais.
C'est ça qui est marrant, c'est que tout ça va être revu après justement le après Imola, on le verra, et qu'après il y a une hégémonie de Schumacher pendant des années.
Ils interdisent aussi le petit sapin. C'est vous du rétroviseur.
La moumoute sur le volant.
La moumoute sur le volant, les trucs à billes derrière. Ouais.
Les olives, les olives en bois.
Ouais. Les olives en bois.
Younes, c'est le seul mec qui connaît le nom des trucs à billes.
Sachant que sur les deux premiers Grands Prix, donc Senna fait une fois tête à queue et l'autre fois un accrochage, mais à chaque fois il part en pole position quand même.
Ouais. Ouais, ouais.
Chacun des Grands Prix, donc il n'est pas non plus complètement à la masse,
Grand
sauf qu'il ne finit pas ses courses.
Grand Prix du Brésil.
Il
ne
va pas finir celle-ci non plus, spoiler alert. Pardon,
excuse-moi. Grand Prix du Brésil et Grand Prix du Pacifique ont eu lieu le 27 mars et le 17 avril. Alors, au matin du Grand Prix Saint-Marin, donc on a un classement qui est un peu sans appel. Schumacher en tête, largement avec 20 points.
20 points,
ouais.
T'as
gagné les deux premiers Grands Prix.
C'est 10 points à la victoire à l'époque.
Ouais. Ensuite, c'est Barrichello.
Barrichello avec 7 points. Tout à fait. Gerhard Berger, le grand ami de Senna, justement, qui avec Ferrari, qui arrive en troisième position avec 6 points. Égalité
et Damon Hill. Exactement.
Voilà. Donc, on s'apprête à vivre un Grand Prix. Quand même, il y a quand même du suspense sur le plan sportif.
Bah oui, et puis là, Senna, il a la pression. Quoi. Il faut qu'il donne tout.
On attend beaucoup de ce Grand Prix, qui est le premier Grand Prix de la saison en Europe.
En Europe,
Qui est un Grand Prix qui est souvent... il se passe quand même pas mal de choses.
En fait, c'est le premier Grand Prix qui marque la période du championnat la plus déterminante, c'est-à-dire tous les circuits européens ont lieu quasiment.
Oui, parce qu'il y a Monaco derrière. Ouais.
Voilà, exactement.
Alors, premier jour d'essai, le vendredi 29 avril 1994, ça commence mal.
Ouais. Oui, on raconte, peut-être qu'on raconte juste pour les gens qui ne connaissent pas du tout la F1, que pour un Grand Prix, donc il y a le Grand Prix le dimanche après-midi en général. Avant ça, pour savoir qui s'élance sur la grille
le dimanche matin, il y a Automoto.
Dans quel ordre est-ce
dans quel ordre on s'élance? Il y a deux séances qualificatives et ce sera le meilleur temps des deux séances. Donc ce sera le vendredi, c'est toujours le vendredi et le samedi. Voilà, ça, je pense que c'est important.
D'ailleurs, le vendredi, Senna finira premier de ses premiers tours d'essai.
Ouais. Tout à fait. Alors,
donc le vendredi.
Premier avertissement.
Oui, déjà ça passe pas super bien pour tout le monde.
Pas très très bien. Rubens Barrichello, qui est jeune à l'époque. Je crois que c'est ça reste encore le pilote le plus capé, hein, il me semble, en Formule 1.
C'est celui qui a fait le plus de Grands Prix, je crois.
Ouais, c'est ça,
oui. Oui, en termes d'expérience.
Il est victime dans la Varianta Bassa. Hein, donc, il est victime d'un
225 km/h, ce qui fait pas une petite vitesse.
Il est victime d'un accident spectaculaire. Vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu les images?
Incroyable.
Incroyable.
Il est plus spectaculaire finalement que les accidents de Senna et de Ratzenberger.
Il est plus spectaculaire pour une bonne et simple raison, c'est qu'il décolle littéralement.
C'est incroyable. On a l'impression qu'il vole.
On a l'impression
qu'il vole.
D'ailleurs,
le rêve bleu.
C'est comme dans le dessin de Younes.
Oui, c'est vrai. Il décolle, mais c'est ce qui le sauve, en fait, j'ai l'impression.
Ouais, si vous... Le fait d'être extirpé, entre guillemets.
Je crois qu'il prend la barrière de pneus. Il est au-dessus de la barrière de pneus.
Il apprend avec le dessous de la voiture, en fait, parce qu'il décolle sur un... sur un vibreur en fait, et du coup il prend le dessus de la barrière de pneus, il le prend pas de plein fouet en fait. Par contre après il va faire quand même quelques tonneaux.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il fait quand même des tonneaux assez
impressionnants. Il fait des tonneaux impressionnants,
mais il va être
il est extirpé inconscient, hein, quand même.
Il va être soigné par les équipes médicales sur place et ensuite il va être conduit ensuite à l'hôpital. Et il aura un nez cassé, un bras dans le plâtre. Somme toute il s'en sort plutôt pas mal au vu de ce qui va se passer derrière.
Barrichello, mais Barrichello qui est brésilien, comme Ayrton Senna, qui est un grand ami, qui c'est un peu le petit protégé de Ayrton Senna, et Ayrton Senna qui sera le premier à aller à son chevet et à s'enquérir de son état de santé.
Effectivement.
Voilà. Très affecté par ses déplacements.
Déjà très affecté.
En fait, il fait pas mal d'allers-retours vers l'hôpital pour essayer de prendre des nouvelles, et en fait il est assez conscient en fait des pilotes qui sont autour de lui. Il est très concentré sur sa course, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, mais il est assez protecteur.
Il est déjà très inquiet. Il faut savoir quand même que il y a eu l'accident de Barrichello qui est spectaculaire, mais il y a eu énormément de petits incidents d'accrochage, de petits accidents mineurs, si vous voulez, 5 ou 6 au moins, dont ont été victimes notamment Senna et Schumacher pendant ces essais. Ils ont fait des têtes à queue, des sorties de route.
Mais il y a aussi, je crois, ça, pour le coup, j'en suis pas sûr, et pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent la F1 sauront. Mais je crois qu'il y a aussi des accidents de toute façon depuis le début de la saison. Il y a, un accident sur des essais privés avec Alesi. Je crois que Leto, dont on va reparler, a aussi été victime d'un accident. Il y a quelque chose, il y a une tension.
Une tension.
Une certaine tension.
Alors, après, au-delà de ça aussi, moi, ce que j'ai lu, c'est que certains, par exemple comme Damon Hill, qui va raconter ça beaucoup plus tard, finalement cet accident, même s'il a été impressionnant, il rassure aussi parce qu'ils se disent on est quand même bien protégé dans nos habitacles, on a des voitures sûres malgré la violence des chocs. Bah on peut, on s'en sort quoi.
C'est Damon Hill qui dit ça, qui dit. Qui dit on était solide comme des tanks, on pouvait être secoué mais pas blessé. Jackie visionnaire quoi.
Et c'est vrai que les habitacles bougent pas en fait sur les vers les autres accidents, les habitacles sont assez solides. Alors en tout cas il y en a un qui est quand même pas tout à fait rassuré, c'est Ayrton Senna qui va faire part de son sentiment au micro le soir du vendredi 29 avril.
J'avais de mauvaises sensations pour conduire la voiture et la pousser vers ses limites. Je n'ai pas eu un tour sur lequel je me suis senti vraiment parfaitement à l'aise. Et puis avec tous ces accidents, je n'étais pas vraiment confiant.
Voilà, donc il est plutôt, il est déjà en stress.
Mauvais pressentiment.
Mauvais pressentiment. Sentiment qui va être confirmé lors de la deuxième journée d'essai.
Le samedi.
Le samedi, effectivement. 20 minutes après le début de la séance de qualification, Roland Ratzenberger,
autrichien,
autrichien,
33 ans, première saison en Formule 1,
c'est un novice.
Horrible.
Il était.
Faut préciser ça.
Pour la modèle. Alors, en fait, oui, il était vieux, mais c'était effectivement.
C'était
un
jeune vieux, donc dans le circuit.
Un peu comme toi.
Oui, tout à fait. Ouais. C'était son 10e ou 12e, je crois.
Ah, beaucoup moins. C'était son deuxième. En fait, c'était son 3e Grand Prix. Il s'était pas qualifié sur le premier.
D'accord. Ouais.
Sur le Grand Prix du Pacifique, il a fait une honneur. 11e place quand même.
Ouais. Bon, c'était.
C'était son deuxième Grand Prix.
Il avait une expérience dans un autre secteur de.
Bah, il venait d'avoir le permis surtout.
il était en train de.
Il avait
créneaux,
le A. Là. Il avait le A sur la Formule.
Il a eu son accident en créneau là.
Ouais. Alors blague à part, effectivement, c'était un tout jeune et effectivement, il tente.
Il était engagé à Simtek dans l'écurie Simtek.
Dans l'écurie.
Très modeste.
Anglaise, je crois.
Ouais, anglaise. Il était engagé pour 5 Grands Prix seulement. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il devait courir 5 Grands Prix et se remarier au quart.
Les cinq doigts
levés, ouais. Non, c'était une pige et effectivement, il tente certainement de jouer un va-tout dans un circuit qui est très très réputé pour sa vitesse.
Ouais, exactement.
Et certainement qu'il a pris des risques inconsidérés vis-à-vis de son pilotage pour pouvoir essayer de se faire remarquer aussi.
Apparemment, déjà, il a un premier petit choc. Ouais. Où il abîme son aileron. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vous le dis.
C'est l'aileron arrière.
C'est
la petite aile.
Alors, c'est la petite aile qui a l'avant du Formule 1 et qui s'est carrément décrochée. Hein. Oui. Il y a des images où on voit son aileron voler.
Et en fait, plutôt que de rentrer au stand et de vérifier que tout va bien, il décide de continuer. Ouais. Il enchaîne un nouveau tour.
Grave erreur. Ouais.
Et en fait, il ne va pas réussir à négocier l'un des virages.
Le virage Gilles Villeneuve.
Oui, ironique, sachant que Gilles Villeneuve est l'un des deux derniers tués.
82
avant nos deux camarades dont on parle en 82 qui se tue dans un accident effroyable
ça permet de dire que ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas eu de mort sur un 82, circuit de Grand Prix.
Ça faisait 12 ans qu'il n'y avait pas eu de mort effectivement. Il sort quand même à 314 km/h du virage. Lui par contre il ne vole pas, hein, il ne prend pas le dessus le
petite
dessus de la maison,
non,
il va en plein dedans,
il percute le mur. Et d'ailleurs il va pas, enfin la structure va être quasiment intacte, enfin de sa cabine de pilotage. Mais lui va avoir la violence du choc, en fait va lui fracturer le crâne, il va mourir sur le choc.
Vous avez vu également les images de cet accident ou pas? C'est terrible parce qu'en fait autant sur Barrichello on voit qu'il est encore conscient plus ou moins, enfin en tout cas, mais là Ratzenberger c'est un pantin, en fait il a la tête qui bouge dans tous les sens. Tu sens qu'il est déjà mort déjà dans l'habitacle au
moment
du choc.
Les voitures étaient surpuissantes d'un point de vue des chevaux dégagés par rapport au poids de la voiture, du véhicule. Quand on parle des ailerons ou on parle de tout ce qui est aérodynamisme, tout est fait pour contrôler le véhicule et faire en sorte que dans les virages ou dans les pointes de vitesse, le véhicule ne décolle pas ou le véhicule ne fasse pas forcément une manœuvre imprévue par le pilote. Et effectivement, au moindre détail abîmé, c'est normalement une alerte rouge auprès des écuries.
Bah,
et quand lui ne considère pas ça comme quelque chose d'important et continue, il prend un risque à sa charge.
Et là, il se passe quelque chose qui est
Pardon, vas-y, non, vas-y.
Qui est absolument déterminant. C'est-à-dire qu'il est soigné et emporté à l'hôpital.
Oui.
Ce qui fait qu'il n'est pas déclaré mort tout de suite.
Oui, c'est ce que j'allais
dire. Et il y a une loi italienne qui dit que si le pilote meurt
sur le lieu,
on arrête tout en fait.
On arrête le Grand Prix.
Bah, en fait, c'est pas par rapport au Grand Prix, c'est juste que s'il est mort sur la piste, ça devient un lieu sous scellé.
On met sous scellé
et on va mener l'enquête sur le lieu.
Tout
à fait. On continue le Grand Prix.
Et là, on continue le Grand Prix. Et Leonardo. La Tortue Ninja, Leonardo. Non,
DiCaprio.
Leonardo Senna, le frère, et du coup la famille Senna vont porter, on en reparlera plus tard dans les procès, mais
porter plainte
contre la FIA.
D'avoir
continué le Grand Prix.
Bah, en fait,
c'est un moment crucial quand même dans ce Grand
Exactement.
Prix.
Officiellement, comme tu disais, Ratzenberger est mort à l'hôpital une fois qu'il a été transporté. Il était transporté à l'hôpital Maggiore de Bologne, où sera transporté Senna également.
Comment ? L'hôpital comment ?
Maggiore.
Ah,
Maggiore.
Merci. Je n'avais pas compris.
Il sera transporté là-bas et officiellement, il est mort là-bas. Mais effectivement, même sur les images, on voit qu'il est quand même pas très bien.
C'est terrible.
On voit qu'il n'est pas en forme. C'est assez horrible. Non, mais effectivement, le Grand Prix aurait pu être reporté en tout cas.
Et l'un des premiers encore à s'enquérir de son état de santé est Ayrton Senna.
Qui se déplace jusqu'à l'hôpital. Effectivement.
Jusqu'à l'hôpital.
Et le professeur Sid Watkins. Lui annonce la mort et témoignera plus tard dans une biographie que Senna se serait effondré en larmes
sur son épaule.
Et lui dit, d'ailleurs, ça aussi c'est dingue, c'est vraiment incroyable.
Mais c'est fou.
Ce médecin
lui dit à Senna, mais en fait, arrête. Concours pas, t'as déjà tout gagné, t'es un champion incroyable. Va à la pêche, joue au domino, je sais pas, mais fais autre chose. Et Senna lui répond. Mais je ne suis pas le seul décideur.
Ouais, je n'ai pas le contrôle sur tout.
Il vient d'être engagé effectivement chez Williams.
Ouais.
Et puis non, mais surtout, il faut dire une chose, c'est que Prost, il a 4 championnats du monde.
Oui, voilà.
Senna n'en a que 3. Et c'est l'occasion d'égaler son grand rival.
Il faut faire monter au fur et à mesure en fait une description autour du personnage d'Ayrton Senna quand même, qui est un grand mystique. Donc au-delà du fait que ce soit un pilote assez génial, il est quand même relativement extrême dans ses croyances.
Il est très croyant,
c'est ça. Il est très croyant. Il est
brésilien, quoi.
Voilà, il est brésilien. Voilà, on va résumer ça comme ça. Et effectivement, il se sent porté aussi par une forme de voix intérieure ou d'une mission. Et il voit des signes à peu près partout. C'est le roi de la concentration et le roi de la méditation, ce qui fait de lui aussi un pilote hors pair parce qu'il arrive à se mettre dans
à méditer pendant la course.
J'ai
lu que parfois il conduisait sur certaines portions de route en apnée.
Oui.
Pour contrôler parfaitement, je suppose, ses gestes ou j'ai pas tout compris.
En fait, la mentalisation en course automobile, comme dans beaucoup de sports, contribue à la performance. Et effectivement, dans une course, notamment les courbes prises à une certaine vitesse, ne peuvent être que mentalisées et donc faire en sorte que son corps mentalise les coups de volant, en fait. Et on a affaire en fait à finalement un mentaliste voilà. Non mais c'est des performances qui ne sont pas atteignables juste parce que physiquement tu en as le niveau, mais aussi parce que mentalement en fait tu arrives à faire un effort.
C'est beau ce qu'il dit. Jonas,
il me saoule.
Il se passe quelque chose d'incroyable, c'est donc il y a quand même un mort dans ce Grand Prix. Ça faisait depuis 82 qu'il n'y avait pas eu de mort.
Ricardo Paletti au Canada en 82.
Ricardo Paletti, ouais, c'était Villeneuve d'abord au Grand Prix de Belgique, je crois. Je suis pas sûr.
À vérifier.
Sur Internet.
On demande
et ensuite Paletti au Canada.
Ouais.
Et donc il y a un mort. Non seulement le Grand Prix continue, il va y avoir le classement.
Senna obtient d'ailleurs la pole position.
Senna obtient la 65e pole position de sa carrière, ce qui
est
un record.
Qui est toujours le record.
Et en plus, les pilotes sont psychologiquement atteints. Il y a Berger, qui est autrichien, qui le connaissait. On arrive le dimanche après-midi.
Je pense que même si tu le connais pas, t'es dans la course, ça te met un petit.
En fait, Ratzenberger était très peu connu.
Ratzenberger était très peu connu, et on s'est dit encore à ce moment-là, il y a aussi pas mal de pilotes. D'ailleurs, c'est Desmanil peut-être qui le dira. C'est un petit pilote, dans le sens où c'est un petit pilote. Donc on se dit quand même malgré tout, c'est un petit pilote.
On se dit que c'est peut-être une erreur de pilotage
On se dit que c'est un pilote inexpérimenté, ce qui pourrait expliquer son accident, et que son écurie a peut-être pas les épaules financières et techniques pour participer à des grands prix en fait. On se rassure comme ça. On verra que le lendemain, toujours, ça donnera pas raison à Damien.
Vas-y.
En fait, le soir même, Senna, déjà dans un premier temps, confiera à sa femme qu'il la sent pas et qu'il...
sa femme sent... Il avait le débouché aussi.
qu'il sent pas le Grand Prix le lendemain et qu'il a pas envie de courir. Et Senna va déclarer à Gerhard Berger, entre autres, qu'il prévoit d'avoir un drapeau autrichien pour le Grand Prix en cas de victoire, pour le brandir sur le podium.
Et il l'a dans son habitacle parce qu'il sera retrouvé... au moment de l'accident.
C'est assez terrible.
Et donc, du coup, sportivement, on en est là. C'est que Senna a la pole position devant Schumacher, Berger et Damon Hill, quatrième.
Et Damon Hill. Schumacher, pardon. Senna se rend sur le lieu de l'accident le soir pour voir en fait ce qui s'est passé. Il se rend compte qu'en fait une erreur, enfin un ennui mécanique à cet endroit-là est fatal, ce qui doit à mon avis le faire encore plus flipper. Le lendemain, il est rappelé à l'ordre par la FIA, lui disant qu'il n'avait rien à faire sur les lieux,
qu'il
n'était pas censé y aller.
La FIA, ils sont costauds, hein, les gaillards.
On va voir ça.
D'ailleurs, Max Mosley, le président de la FIA, on pourrait en faire une émission à part entière.
Oui, oui. On pourrait faire presque un numéro spécial. Ouais.
Et il est pas mal, je pense qu'il pourrait être pote avec Seb Blatter, hein. Ça ferait un...
Et Adolf Hitler aussi, je pense que ça serait bien.
Alors, le 1er mai 1994, c'est le Grand Prix, il a bien lieu.
C'est la fête du travail.
C'est férié, donc tout le monde peut regarder
tout
le Grand Prix.
Regarde.
On a vu évidemment avant Téléfoot.
Automoto, Téléfoot, ensuite le journal et le Grand Prix.
Ça va très vite, pas très bien commencer en fait.
Alors déjà, le matin, ambiance bizarre, Senna toujours très contrarié, très méfiant et en flip. Il passe la matinée à discuter avec un certain nombre de coureurs, dont Gerhard Berger et Schumacher notamment, et leur propose de reformer un comité de pilotes pour peser sur les questions de sécurité.
Bah oui, parce que d'ailleurs,
on sent qu'il est très inquiet.
On verra dans l'extrait que tu as passé tout à l'heure du JT, il y a un certain nombre d'anciens pilotes qui sont interrogés et justement qui reviennent sur la question de la sécurité et qui disent qu'en fait, les pilotes ont été un peu écartés de ces questions de sécurité et n'ont plus vraiment leur mot à dire. Et effectivement, dès ce matin-là, Senna commence à dire qu'il faut qu'on reprenne un peu la main et qu'on reprenne notre rôle là-dessus.
Et post-accident, Prost, au commentaire de TF1, fait une petite tirade autour des questions de sécurité aussi. Ouais.
J'ai un extrait. Senna va aller voir Prost ce matin-là. Il va voir Prost pour lui poser des questions sur la Williams parce que Senna n'est pas satisfait, comme tu l'as dit, Younes, tout à l'heure. Ouais. Il ne se sent pas forcément très bien dans cette voiture et il lui pose pas mal de questions.
Et il lui pose aussi des questions sur comment contenir la voiture de Schumacher aussi, comment lui faire face pendant la course.
Il prend un peu comme un conseiller spécial.
Voilà, donc, et puis ajouter à ça le fameux Alain, tu nous manques au micro d'Automoto, qui surprend terriblement Alain Prost. Et 14h, c'est le départ du Grand Prix. Vous allez voir que ça commence pas très bien.
Des moments extrêmement émouvants. Vous savez que c'est le départ de la saison européenne. On vit ici le troisième Grand Prix de la saison 1994. Le drapeau vert signe que le starter peut envoyer le feu rouge, puis le feu vert. Rouge. Senna, Schumacher, décrochage. Une Benetton sur la piste. Oui, touché. Je crois que c'est une Benetton qui était sur la piste, Johnny, et puis une autre voiture qui l'a percuté.
Oui, c'est Gigi Leto qui a calé au départ. Tout le monde a pu l'éviter, sauf une Lotus.
Pedro Lamy.
Celle de Pedro Lamy, tout à fait.
We'll be right back.
C'était The Last Race de Jack Nitzsch, un morceau issu de la bande originale de Death Proof de Quentin Tarantino.
Jack Nitzsch, un magnifique philosophe.
Donc, comme vous avez pu l'entendre sur l'extrait précédent, ça commence pas très très bien. On va peut-être expliquer quand même ce qui se passe.
Ouais. Donc une voiture sur le départ, après le tour de chauffe, donc le véritable départ, reste bloquée. Donc ça arrive fréquemment.
Elle cale, quoi. C'est ouais. La voiture de Leto.
Exactement.
Voilà. Gigi Leto, finlandais, coéquipier d'ailleurs de Michael Schumacher chez Benetton Ford.
Chez Benetton, ouais.
Et au début, les premières voitures juste derrière lui, en fait, vont arriver à l'éviter. Mais pas toutes, puisque Pedro Lamy, lui, va pas voir la voiture et donc va le percuter. Et en le percutant, en fait, il va faire voler des pneus, des morceaux de carrosserie en l'air. Et les débris vont en fait atterrir dans le public et quand même blesser, je crois, trois spectateurs, plus un policier. Les deux pilotes vont s'en sortir quasiment indemnes. Hein. Mais il y aura quand même déjà 4 blessés en ce début de dimanche.
Oui, alors que ça a commencé depuis à peu près 0 minute.
Voilà.
On voit une roue, dans, oui. C'est assez impressionnant d'ailleurs. On voit une roue qui vole très très haut, qui d'ailleurs je crois qui s'écrase juste derrière un spectateur.
Exactement.
En fait, ouais. Oui, alors il y a aussi une roue, vous avez vu dans le Grand Prix comme moi, qui vient en fait qui va tellement haut qu'elle s'écrase sur le toit en fait, enfin l'abri de la tribune.
Bien sûr.
Et tu te dis, s'il n'y avait pas eu l'abri, cette roue elle aurait carrément tué quelqu'un quoi.
Oui. C'est pas très en termes de sécurité des spectateurs. J'ai trouvé ça pas génial. Voilà, c'était mon commentaire.
Les tribunes sont très proches du circuit.
Ouais, c'est assez fou. Et donc, c'est les débris, non pas les roues qui vont blesser. Donc, 4 blessés quand même. Oui, c'est ça. C'est au bout de
0 minutes.
De seconde, quoi.
Oui.
Mais on est quand même parti.
Alors, c'est un peu le bordel sur la piste. Il y a pas mal de débris, du coup. Parce qu'effectivement, le choc est quand même très violent.
Le choc est heureusement que Pedro Lamy, qui quand même le voit pas, mais percute légèrement de côté.
En fait, il le voit pas parce qu'il double une voiture.
Oui,
et la voiture de Leto est juste derrière. Donc, il la prend.
Voilà, et du coup.
Il la prend de côté.
Il la prend de côté.
Ce qui permet un peu de sauver la vie du pilote.
Oui. Alors, la course n'est pas arrêtée. Il n'y a pas de nouveau départ. Elle est neutralisée seulement. C'est-à-dire que.
Jaune.
Il y a une voiture de sécurité qui fait son entrée en fait.
Une voiture de sécurité qui est instaurée depuis 1993. La voiture comme ça où tu continues comme ça à faire des tours.
Ils sont à la queue. Alors il faut expliquer.
En fait, chacun garde sa place. Tu n'as pas le droit de dépasser et tu restes derrière la petite voiture, la voiture de sécurité qui t'impose un peu un rythme.
Interdiction de doubler.
Pendant le nombre de tours où on est en train de réparer.
Exactement.
En train de nettoyer les débris.
Et ça permet de contenir le schéma de la course en fait.
Ça permet. Alors les tours sont comptabilisés.
Les tours sont comptabilisés.
C'est-à-dire que si tu fais 10 tours, c'est 10 tours de moins.
On crée le décompte.
Bien sûr. Voilà. Donc
ils font les 65 tours comme ça. Le Grand Prix c'est... plus chiant.
Ils auraient dû le faire comme ça.
Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moins dramatique.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu critiqué la voiture de sécurité, notamment par Senna, parce que les pneus se refroidissent pendant ce temps-là, et que du coup le départ, la reprise de la course ensuite est plus difficile.
Bah alors,
peut être un peu dangereux.
Par expérience de l'histoire de ce sport,
tu fais chauffer tes roues toi quand tu démarres aussi.
Ouais, voilà, exactement. Je fais des zigzags et je chauffe mes roues avant de partir. Non, mais par expérience justement de l'histoire de ce sport, depuis qu'il y a une safety car, les pilotes ne cessent de faire des zigzags derrière le safety car. Donc on les voit, si vous avez la curiosité de regarder quand même de la F1, même si vous détestez ce sport, vous pouvez voir en fait que.
Non.
Oui.
Ouais, voilà. donc voilà, c'était un peu la parenthèse technique.
Alors la voiture de sécurité, au bout d'un moment, éteint ses gyrophares, s'écarte.
C'est reparti.
La course reprend. Pas pour bien longtemps, puisqu'au 7e tour, en fait, la voiture s'écarte au 6e tour. Et au 7e tour, à 14h18 exactement, Senna s'engage dans le virage de Tamburello à gauche, puis vire soudainement à droite et prend la barrière de pneumatique de plein fouet à 212 km/h.
Il est suivi de près
son accident est retransmis
Michael Schumacher
en direct partout dans le monde sauf sur TF1 qui
ont décidé de balancer de la réclame
qui était en coupure pub, donc les Français n'ont pas vu l'accident.
Si vous voyez, on vous mettra le lien sur nos pages de réseaux sociaux si vous voulez, mais de la course, mais quand vous voyez la course sur les internets, le moment où il y a l'accident, ça passe en anglais
cette vidéo était comblée par un vide de la télévision française, par une vidéo d'Eurosport peut-être, ou une télévision
je sais pas, aucune idée.
En tout cas, cette fois-ci, la course est interrompue, drapeau rouge, Et le professeur Sid Watkins, donc, qu'on a, oui. dont on a parlé tout à l'heure, mais qui en fait, c'est, il est à la tête de l'équipe médicale du circuit de Formule 1, arrive sur place et tout de suite, donc, l'équipe médicale va prendre en charge Senna. Au début, quasiment à même la piste. En tout cas.
Ah bah, à même ouais. la piste.
Senna qui était premier, donc quand même, Senna qui était premier au moment de la course, qui vient se cracher dans le mur. On voit un petit peu ce qui se passe par la caméra embarquée sur la caméra embarquée de Schumacher
ouais. juste derrière.
Exactement. Ouais.
Mais on ça, voit ça, ressemble quand même ça a tout de l'incident mécanique quand même hein, parce que il semble qu'ils soient engagés quand même dans le virage et d'un seul coup paf il part sur la droite sans explication.
Ouais. À ce moment-là tout le monde essaye de trouver des explications, on lui dira après mais
on cherche autour de l'aérodynamisme,
c'est très très violent. Moi, ouais. je l'ai vu, j'étais abasourdi vraiment pour le coup. Comme c'est
vraiment sans blague du tout. Moi, j'ai regardé ce Grand Prix, donc je l'avais jamais vu. Moi, contrairement à toi, Vanessa, j'ai regardé ce Grand Prix. Franchement, il y a quelques moments où j'avais presque les larmes aux yeux. On voit juste quelqu'un crever sous nos yeux. Enfin, hein, c'est vraiment
moi,
très
j'avais,
dur.
J'avais les larmes aux yeux.
Ouais, non, c'est terrible.
Et ce qui est terrible, c'est que du coup, la course s'arrête. Tu vis avec ce moment-là. Tu vois des gens. Tu as quand même 30 personnes tout autour d'Ayrton Senna que tu ne vois pas au départ. Tu vois juste ses jambes.
Tu vois juste ses jambes.
Tu entends, et ça c'est terrible aussi quand on sait ce qui s'est passé, Prost et Rive et Moncey essayaient de se rassurer en disant ah mais il a bougé, donc ça
ses
va.
Ses jambes sont intactes. L'habitacle est plutôt intact.
L'habitacle est plutôt intact, puis tout d'un coup tu vois qu'on lui fera une trichotomie directement à même le sol, ce qui est jamais bon signe normalement on t'envoie direct à l'hôpital, mais ça veut dire qu'il ne peut pas bouger.
La pire image, moi celle qui m'a le plus choqué, c'est qu'en fait quand il est déplacé, qu'il est mis sur la civière, il soulève son corps et il laisse apparaître une flaque de sang,
sur le sang.
Ça c'est hyper choquant,
c'est vraiment
donc, alors, pendant que tout ça se passe tous les autres coureurs sont retournés dans leur stand et il y en a quand même un, Eric Coma, dont l'équipe va par erreur.
You cocorico.
Non mais c'est quand même bizarre. Enfin c'est quand même fou. En fait, c'est pas de sa faute. En fait, c'est son équipe qui va lui dire. Enfin, on va lui donner le go pour qu'il puisse retourner.
Oui, y a aucune
et donc
communication,
il retourne sur la piste comme s'il allait continuer la course.
Oui, c'est-à-dire un problème de signalisation.
Heureusement, il se fait arrêter à temps et il n'y a pas de blessé. Mais il arrive très vite. Juste sur le lieu de l'accident où Senna est en train d'être soigné.
C'est surprenant, ça aurait pu être un enchaînement.
Il va être d'ailleurs éliminé. Enfin, derrière, il est éliminé.
Il va se faire sortir
de la course.
Logiquement.
Disqualifié. Eric Coma.
Qui porte bien son nom.
que Senna a secouru lors d'un Grand Prix en 92, je crois. Secouru. En tout cas, lui est venu en aide après un accident assez grave d'ailleurs.
Eric Comas, je sais pas, mais
je sais pas comment.
Mais c'est incroyable que le type, donc tout le monde est rentré au stand et lui, à un moment donné, on lui dit vas-y, continue.
Il y a un petit accrochage un peu plus loin.
Je pense qu'il est pas vraiment responsable parce que moi, t'es pilote, on te dit vas-y, tu peux y retourner, tu te poses pas trop de questions quoi.
Quasiment à l'aveugle.
Je crois que ça dure quand même 30 minutes, enfin quelque chose comme ça.
En fait, c'est très très long en ressenti parce que c'est hyper tragique.
C'est très intense.
Ça dure 20 minutes.
Enfin, moi, j'ai 14h17, le drapeau rouge est levé. Et c'est 37 minutes après, la course reprend.
Ah oui, alors le corps est évacué à peu près au bout de 20 minutes.
L'hélicoptère, alors précisons que l'hélicoptère atterrit
sur la piste.
Et voilà. Et on fait en sorte d'évacuer.
Les pilotes, certains pilotes sont en pleurs. Là, on est déjà, donc pour résumer, on a déjà eu Barrichello. On a ensuite
Ratzenberger.
Et là, on a le champion.
Il est plus question d'un coureur inexpérimenté. Non. Il est plus question d'une petite écurie puisque c'est les meilleurs, le meilleur et la meilleure écurie. Et donc c'est un accident qui va marquer évidemment l'histoire de la Formule 1. On va en revenir. Ce qui est très bizarre, c'est que pendant ces 20 minutes, c'est le chaos. Enfin, tout le monde a pris un gros coup dans la gueule.
C'est normal. Et puis, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne sait pas comment il va.
Donc,
de souvenirs.
C'est la confusion totale.
Puisque la course va reprendre. Jusqu'au bout de la fin de la... On va utiliser des mots que les commentateurs disent, mais on est vraiment dans un... C'est le Mordor, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est...
Déjà, tout le week-end, en fait, si on part des qualifs jusqu'au moment de l'accident de Senna, on se dit que là, c'est vraiment le point de mon retour. Et au moment où on voit l'hélicoptère sur la piste, de souvenir, on se dit que la course est annulée, en fait. Parce que un hélicoptère visuellement sur une piste de Formule 1, sur un événement comme ça qui est retransmis à travers le monde, on se dit que là, on arrive finalement à la fin du jeu et du sport, qui est la Formule 1. pour finalement.
D'ailleurs, on demande.
Faire
on demande,
face à une priorité. Ouais. Quoi.
Alors, on demande à Prost qu'est-ce course... que vous auriez fait.
Oui.
Et Prost dit bah, moi, j'aurais.
Alors, j'ai
en tant que directeur,
j'ai, si, j'ai si. Cet extrait parce qu'effectivement, la course reprend et voici ce que nous dit Alain Prost.
Et moi, Jean-Louis, je me pose la question de savoir qui, dans l'entourage des organisateurs, pourrait avoir la force de conviction de convaincre les responsables de la course de dire que. Le jeu a suffisamment duré. Le sport doit être une fête, une joie. Ça, et dans les circonstances présentes, c'est impossible. C'est donc, hommage a été rendu au public. Ça y est, il est venu, il s'est déplacé pour voir les Ferrari en action, pour voir de belles Formule 1. C'est fait, il en a eu pour son comptant. Maintenant, il serait peut-être temps d'arrêter cette mascarade.
C'est la question qu'on se pose, mais c'est là. La preuve irréfutable de ce que malheureusement je vous disais un petit peu avant le début du direct, c'est que il n'y a qu'une chose qui est importante aujourd'hui, c'est pas le sport, c'est malgré tout le spectacle. Et c'est vrai que la vie continue, mais toutes ces images paraissent bien entendu bien dérisoires par rapport à ce qui se passe. Même pour nous, pour moi personnellement, j'ai jamais été très ami d'Ayrton, mais aujourd'hui il m'avait fait le message certainement le plus sympathique qu'il m'a jamais fait en 10 ans pratiquement de compétition. J'ai été lui serrer la main avant le départ et ça me paraît absolument inconcevable qu'on puisse même continuer à commenter une course comme ça.
C'est fort ce que dit Prost.
Ouais,
il y a plein de super moutons autour d'eux là.
Alors, non, je veux juste dire une chose sur la Formule 1, c'est que les enjeux sont colossaux, ça dépasse même la catégorie sport. On est sur des compétitions de constructeurs de moteurs, donc toutes les marques que l'on connaît tous, hein, donc de Honda, Renault, Mercedes, Ford, etc., se donnent un jeu de milliardaires avec des laboratoires autour de ces courses. Et effectivement, les enjeux qui sont portés par les décisionnaires dépassent complètement finalement le sens commun. Donc quand on a un accident mortel qui se passe sous nos yeux, on se dit forcément on arrête tout et puis on se dit qu'on se recueille et on essaie de faire en sorte.
C'est quand même terrible. Je sais pas comment les pilotes peuvent remonter dans leur voiture et se dire.
Alors il faut préciser, donc la course reprend. Ouais. Les organisateurs décident quand même de donner un second départ à cette course qui est complètement hallucinant.
Mais c'est pour le spectacle. D'ailleurs, on sait bien que l'esprit capitaliste a toujours fait du bien au sport. On le voit en ce moment dans le foot, par exemple.
Exactement.
Mais, alors, ce qui est terrible, c'est quand même pour Damon Hill, qui a la même bagnole que Ayrton Senna. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la voiture d'Ayrton Senna. Ouais. Et lui reprend le départ. Prost, à ce moment-là, dans le Grand Prix, dit « Mais moi, je suis à la place de Damon Hill. » Mais je me gare et je me casse, quoi.
Ouais.
C'est hyper.
Lui, un ancien de Williams.
Un ancien de Williams, exactement.
Ouais. Je parle de Prost.
Et là. Oui. La course reprend. On a des nouvelles de Senna au cours de la course au compte-gouttes. Ce qui est hallucinant, c'est que les premières nouvelles sont rassurantes.
Mais Pierre, il est. Pierre, c'est le monsieur sur le. C'est l'homme de terrain.
C'est Johnny Reeves. Non, c'est Pierre.
Avec sa cravate et ça.
Oui, alors, au début, il dit on a des nouvelles de Senna.
Bon, ça va, il est en vacances, il fait ses mots croisés. Mais c'est incroyable.
C'est hallucinant.
Il est en rétrospectivement,
évidemment, ça paraît hallucinant. Et puis, au fur et à mesure, il commence à reprendre la parole, notre ami Pierrot, en nous disant
voilà, c'est pas génial. Finalement, petite forme. Hein.
Finalement, il n'arrive pas à trouver trop ses mots croisés.
Et donc, c'est terrible.
Et pour finir par dire que l'état est très grave et
peut-être le pronostic
vital est engagé.
Alors, Gerhard Berger abandonne très vite, en fait, après le second départ, pour un problème mécanique. Il avouera bien plus tard qu'en fait, il ne pouvait pas conduire parce qu'il n'arrêtait pas de chialer sous son casque, en fait.
Oh, c'est horrible.
Parce que c'était un des meilleurs amis de Senna,
De Ferrari.
Il était le protégé de Senna, effectivement, très proche, un peu comme un grand frère.
Ouais. Donc, les nouvelles sont de plus en plus graves.
Et là, les commentateurs commencent à s'énerver de plus en plus.
Oui. Exactement.
En comprenant de moins en moins
ce qu'ils étaient eux-mêmes
pourquoi,
en train de faire là,
pourquoi ce Grand Prix continue et il va y avoir
on s'est dit à ce moment-là on a tout vu, c'est-à-dire qu'il y a quand même déjà deux morts, il y a un accident au départ, il y a Barrichello, il y a Barrichello qui survit miraculeusement,
un cauchemar.
Mais non, c'est pas fini.
Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Un mécanicien renversé? Oui.
Il y a eu un.
Oh là là.
De Pierre Luigi Martini en sortant des stands a heurté et il y a une roue arrachée à l'arrière droit. Il semble qu'elle ait heurté effectivement un mécanicien. du côté de chez Ferrari ou de Lotus.
Non, chez Ferrari, Pierre.
Chez Ferrari, tout à fait. Le malheureux est couché sur le sol. La Minardi est immobilisée à la sortie des stands sur trois roues.
Est-ce que vous pensez que on va arrêter ce Grand Prix? Finalement, est-ce que quelqu'un va aller voir le starter, les organisateurs, pour leur dire, ça d'arrêter ça. Cela
ouais.
On va expliquer la pire publicité.
C'est terrible. J'ai un extrait aussi par rapport à ça, parce que c'est de pire en pire, en fait, ce Grand Prix. Et c'est à ce moment-là, je trouve ça hyper fort, en fait, quand tu revois le Grand Prix, parce qu'ils sont vraiment dépités, ils sont scandalisés. C'est les amoureux de la Formule 1, ces gars, qui commentent le Grand Prix, et ils sont juste révoltés, comme nous tous devant notre écran, quoi. On est abasourdis, on vient de voir la mort d'un des plus grands champions, et les organisateurs maintiennent quand même le
On a la responsabilité de rester devant notre écran aussi pour regarder jusqu'à la fin ce qui va se passer.
Voilà, et pour avoir des nouvelles de Senna, en fait. Alors, on va expliquer ce qui se passe globalement sur cet accident. Parce qu'on visualise mal avec seulement l'extrait audio.
Oui,
il reste 10 tours, hein, à peu près. Enfin, on est sur la fin, en fait, de la course. Ouais. Ce qui est marrant, c'est quand on regarde ce Grand Prix, en fait, la course, on s'en fout vraiment.
C'est
totalement secondaire.
Ce qui est incroyable aussi, c'est qu'à la moindre sortie de route d'autres pilotes, puisqu'il y a des pilotes qui vont dans l'herbe ou qui vont au sable, puisque voilà, on a peur.
On a peur de tout.
Dès qu'il y a un dépassement,
On se dit mon Dieu.
C'est un peu destination finale face à la mort.
C'est vrai que le côté sportif est totalement dérisoire. Mmh. Et donc, on a un coureur.
Michele Alboreto.
Alboreto de Minardi, l'écurie Minardi, qui sort du stand. Il est en ravitaillement et qui perd une roue.
Roue arrière droite qui se barre. C'est quand même ballot.
Ouais. On la cherche encore, la roue. Hein.
Pour lui, il valait mieux qu'elle se détache à ce moment-là, je suppose, qu'à 300 km/h.
Alors, elle vole quand même littéralement. Elle va percuter 3 mécaniciens, 2 de Ferrari, 1 de chez Lotus. Et ensuite, elle se dirige, elle traverse la piste juste devant une McLaren.
Ça, c'est incroyable.
Donc, il y aurait pu encore avoir un nouvel accident grave. Dieu merci, en fait.
Je crois que tout le monde s'en sort, mais je crois qu'il y a quand même un mécanicien qui est assez gravement blessé.
Mécanicien de Lotus, il est évacué, il est gravement blessé.
C'est terrible. Et là, il y a une image. Donc, on filme tous ces gens autour des mécaniciens. Et il y en a un qui tape. Je sais pas si vous l'avez vu là,
de rage,
qui tape dans une trousse ou dans le blessé. Non. C'est trop
énorme. Non, mais ça devient insupportable.
Ça devient insupportable pour tout le monde.
Tout le monde veut demander aux officiels d'arrêter cette course.
Notamment Niki Lauda.
Niki Larson.
Bernie Ecclestone, là. Et aussi Berger qui décide. J'espère qu'il va leur mettre des claques.
Alors, Berger se dirige vers les officiels qui sont du tour et qui est gentiment repoussé par les carabiniers qui lui disent « Vous n'avez rien à faire ici. » Et
le frère de Ambe, Berger.
Malgré les demandes des différents coureurs,
on va jusqu'au bout.
La course continue, ce qui a le don d'agacer quand même un petit peu Moncey.
Bon bah écoutez, si c'est ça la Formule 1, franchement, il vaut mieux arrêter. Franchement, bien sincèrement, est-ce que dans ce circuit, on va trouver quelqu'un de responsable pour arrêter cette course qui ne sert plus à rien? Il y a assez de gens par terre. Oui, franchement, parce que ça, je suis la course automobile depuis 1971. À mes côtés, il y a Alain qui a 200 Grand Prix, Johnny encore plus que ça, qui en a vu. Jamais nous n'avons vu des officiels pareils. Jamais nous n'avons vu un scandale pareil. Déjà, on n'aurait pas dû prendre le départ après ce qui s'est passé. Franchement, et maintenant, eh bien, voilà l'accident, on ralentit, on continue. Bah oui, cette roue, elle a dû toucher, vous rendez compte, un nombre de personnes. Mais comment peut-on... Mais le monde entier va nous abonner d'injures et il aura raison.
Il aura raison.
Ouais.
C'est la
pire publicité que l'on puisse faire.
C'est hyper fort quand tu sais qu'il y a quand même un des plus grands champions sur un lit d'hôpital qui est en train de mourir. C'est hyper fort. Enfin, moi, j'avoue que j'ai eu des frissons en voyant ce Grand Prix. Donc, bon, pour l'anecdote, le Grand Prix se finit.
C'est Michael Schumacher
qui gagne. qui ne fêtera pas sa victoire. Enfin, le champagne ne sera.
C'est quand même la moindre bon, bah, des choses.
Ils ont pas sabré le champagne. C'est bon, quand même, les officiels. Et
respect quand même.
Il y a quand même Hakkinen qui finit 3e. Et qui dit ouais, moi je suis content, je fais une bonne course.
Ah oui, c'est vrai. Non, c'est, ouais, vrai. C'est vrai, j'ai vu.
Bien sûr.
Ouais, toujours des mecs un peu idiots. Hein. Ouais.
Et Nicolas Larini qui fait son seul podium de sa carrière sur le pire Grand Prix du monde.
Ça. De l'histoire.
Voilà. Ah, et le Grand Prix, ce, bon, la note évidemment la plus négative, c'est qu'à 18h37, on apprend officiellement la mort d'Ayrton Senna.
Ouais.
C'est la fête, hein, les gars.
Mais non, mais c'est dingue. À aucun moment, on ne réussit à prendre finalement cette course comme quelque chose de classique. On ne parle que finalement de l'accident.
Ouais. Bah oui, évidemment.
Avant des accidents et après, finalement, bah, la course, on s'en fiche. Donc finalement, le sport est complètement absent. Mais complètement
Prost,
absent.
Prost suggère l'idée de ne plus jamais retourner à Imola dans le Grand Prix.
Ah ouais, ouais.
Il dit. Pour la mémoire de ces gens, il faudrait ne plus jamais retourner à Imola.
Évidemment, on va y retourner.
Ah bah oui, oui, bien sûr. Ouais.
C'est l'antre de presque de Ferrari.
Et bah oui, qui porte le nom du.
Mais aujourd'hui, le Grand Prix en Italie a lieu à Monza, donc à Milan.
Mais il y avait les deux, ouais. Puisque ça, c'est le Grand Prix de Saint-Marin.
C'est le Grand Prix de Saint-Marin. Ouais.
C'est ça. Et à Monza celui-ci,
c'est Saint-Marin. Ouais.
Le Grand Prix d'Imola a été un tournant véritablement dans l'histoire de la Formule 1. Déjà, c'est un tournant générationnel parce que on a un certain. Alors bon, évidemment, Prost a pris sa retraite. On a un certain nombre de grands coureurs en fait qui partent à ce moment-là. Et c'est la relève.
Masséna, on le reverra plus. Hein.
On a Mansell.
C'est Mansell. Dommage parce qu'il était bon.
Mansell qui part aux États-Unis, je crois, ouais. En 93. Il y a Nelson Piquet qui arrête en 91. Senna qui meurt tragiquement. Et c'est la relève du petit nouveau quoi, de Schumacher, Hakkinen. Voilà.
La domination qui
naît.
Qui naît de celle de, ouais, de Michael Schumacher. Mais effectivement, voilà, il y a finalement l'âge d'or de Fangio, celui qui fait fantasmer tous les pilotes parce que finalement, c'était le record à battre par rapport aux titres mondiaux. Et, ouais. Mais voilà, de l'histoire moderne de ce sport, c'est finalement le duel Prost-Senna qui a marqué.
Même si c'est Schumacher qui a le plus de championnats. Hein.
C'est même Schumacher qui a le plus de titres. Mais bon, avec beaucoup moins de romantisme et avec une domination technique de Ferrari.
C'est d'ailleurs Schumacher, sur 10 ans quasiment. C'est Schumacher qui va gagner les championnats du monde de 94.
Donc,
qui vont être un peu contestés. Vous vous souvenez comment ça se passe, les championnats du monde 94?
Ah non.
En fait, il se retrouve à un point de Damon Hill sur le dernier Grand Prix. Et en fait, Schumacher, stratégiquement, provoque un accrochage, ce qui fait que les deux pilotes sont obligés d'abandonner et il garde son point d'avance.
Ah,
il est champion.
Mais tu sais qu'il reproduit, il reproduit un schéma, en fait, il reproduit le schéma de Prost-Senna. Et effectivement, Senna avait provoqué un accident. Pour rester champion. On effectivement, c'est une stratégie qui, après, sera sanctionnée. Mais...
C'est un sport de filou.
Souvenir, de bonhomme.
Souvenir encore une fois, en 94, on est en Coupe du monde de football et le Brésil remporte le championnat du monde de
leur
football.
Quatrième Coupe du monde.
Leur quatrième Coupe du monde.
Comme Senna aurait pu gagner son quatrième.
Oui, mais pour l'instant, c'est nous qu'on est champions.
Voilà. Et une banderole immense, hommage à Ayrton Senna, étendue dans le stade de Los Angeles.
Voilà, parce qu'il faut savoir que Senna est un héros, c'est un mythe au Brésil.
C'est un mythe. Trois jours de deuil national.
Trois jours de deuil national, quand même.
Funérailles retransmises en direct.
En Mondo Vision.
Voilà. Et
Mais c'était moins bien que Johnny, quand même. Hein.
Il y a pas mal de mesures. Du coup, la FIA est obligée de prendre quelques mesures.
Oui, notamment par rapport à la puissance des moteurs.
Voilà, alors en fait, trois jours après le Grand Prix, la FIA organise une réunion extraordinaire.
Je ne sais pas si on l'a dit, mais la FIA, c'est la Fédération internationale de l'automobile.
De l'auto, oui, c'est la Fédération internationale de l'automobile.
Alors, et le siège est à
Vierzon,
à Paris, rue de Rivoli.
Je sais pas.
Donc, ils prennent un certain nombre de mesures. Donc, déjà, des courbes sont intégrées à l'entrée et à la sortie des stands.
Pour les forcer à ralentir un peu,
voilà,
les pilotes.
Pour éviter les accidents comme Alboreto. Hein. Ouais. Des protections latérales sont renforcées dans les habitacles. Ouais. Le poids minimum des véhicules est augmenté de 25 kg dans un premier temps.
Ça, c'est pas tout de suite.
Ça, c'est un peu après.
Ça vient, non,
alors,
si
il est augmenté, il est augmenté dans un premier temps de 25 kg. Et ensuite, il y a deux nouveaux au cours des championnats du monde 94.
D'accord.
Il y a deux nouveaux accidents.
C'est 11 jours après, mec.
Ouais, non, c'est le Grand Prix de Monaco.
Il
y a un accident qui...
Tu m'appelles pas mec hein.
Pardon, non, mais excusez-moi. Juste pour dire
c'est moi le chef ici hein.
Tu montes pas du doigt.
Il y a un certain nombre de mesures qui sont,
respect,
qui sont mises en place.
Tu parles pas même pas quoi, Sarah.
Dès le Grand Prix de Monaco, 10 jours après, ils mettent en œuvre les... Non, mais ils mettent déjà de nouvelles mesures en œuvre. Mais re-accident, donc ils disent...
La réaction le quatrième de la course là... désolé pour le Vendinger Vendinger qui
enfin, je rigole
qui
mais je saurais pas le dire
qui au bout du tunnel là où bon, c'est le plus rapide à Monaco a un accident et du coup là ils reprennent encore d'autres mesures plutôt que leurs petites mesurettes qu'ils ont fait un petit peu pour les calmer.
Bah, 26
là,
c'est pas grand
chose. Là il y a vraiment un appui tête de protection, là il y a vraiment la cylindrée des monoplaces,
les protections latérales des voitures qui est renforcée,
là on remet le sapin pour égayer un petit peu le pilote dans son
la moumoute les olives en bois.
Oui, bien sûr. Non, mais après aussi, certains tracés de circuits ont été légèrement modifiés aussi parce que.
Il faut savoir que les
circuits trop rapides.
Ouais, les grands prix sont plafonnés à 50 km/h.
Voilà, exactement. Et il y a des Dodanes.
Et c'est que des Twingo qui circulent dessus.
Je crois que c'est des Smart.
Des il y a des ralentisseurs avec des feux rouges.
Et d'ailleurs.
Imola, le circuit d'Imola peut se faire qu'en Vélib maintenant.
Oui, et en Fiat Punto.
Bah, Vélib contre trottinette, c'est assez impressionnant.
Alors, ils plafonnent quand même les moteurs à 600 chevaux.
Oui.
Alors oui, une petite précision sur la puissance des moteurs. On est en période de qualification à 1300 chevaux autorisés, maximum plafonné. Et ensuite, pendant la course, on est à 850 chevaux. Donc, il faut savoir que ramener au poids des véhicules, c'est énorme.
C'est énorme. Mais
il faut aussi savoir peut-être que depuis ce jour, il n'y a qu'un seul pilote qui est décédé pendant un Grand Prix.
Oui.
Et c'est un Français, c'est Jules Bianchi en 2015.
Ouais, qui n'est pas décédé au terme du Grand Prix, qui est décédé suite à ses blessures.
Oui. 9 mois de coma entraîné. Bon, j'en parlerai tout à l'heure.
Oui, mais bon, c'était... Oui, parce qu'il y a des procès qui vont être lancés. Donc
alors, juste revenir un petit peu, les circuits sont retracés également.
Oui. Non celui d'Imo, là.
Celui
d'Imo. Du mal
à le dire, non.
C'est trois syllabes, ça, quand même.
On est fort.
C'est quoi ce truc, là, Imola?
Il rajoute plus de zones de ralentissement, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à Imola, en fait, t'avais des murs tout le long de la route. Ce qui fait que quand tu faisais une sortie de route, paf, tu fonçais directement dans le mur.
Il y a une façon de prendre un mur.
Je fais bien, comme ça. Comme le dessin Younes.
Comme dit Alain Prost, il y a des angles qui sont plus ou moins favorables vis-à-vis d'un accident et des chances de survie d'un pilote après un choc. Et effectivement, celui de Saint-Marin, donc Imola, laissait notamment sur ce virage de Tamburello une perspective assez funeste si tu devais prendre le mur.
Ouais.
Et ce mur, Senna, quelques années auparavant, peut-être même quelques mois auparavant, avait visité en fait ce mur et avait discuté avec un de ses collègues pour essayer d'imaginer s'il pouvait déplacer en fait cette zone.
Ouais.
Mais cette zone était juste devant une rivière et c'était pas possible d'imaginer, ne serait-ce que de retracer le circuit.
D'accord.
C'est terrible. Enfin, je repense à ça, mais parce que je trouvais ça terrible. Je voulais partager ça avec vous. Non, vraiment. Quand on apprend de plus en plus de mauvaises nouvelles sur Senna et qu'ils essayent de se rassurer comme ils peuvent les commentaires et Prost, en parlant notamment de Niki Lauda. Ça aussi, on trace ça peut-être sur les réseaux sociaux, mais Niki Lauda qui a eu un accident incroyable, qui est complètement presque brûlé, on pense en tout cas qu'il est coincé. Il est quand même 3 jours dans un coma profond. On lui fait les dernières
extrême
onction, pensant qu'il allait mourir. Il se remet.
Il arrive en peignoir dans la cuisine. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Il fait une drôle de tête.
Voilà.
C'est à peu près ça. Et voilà, et du coup, Prost, je crois que c'est Prost ou Moncey qui ah, mais oui, quand même, on sait pas. C'est terrible.
Ouais, c'est sûr, c'est évidemment. Ouais. C'est excellent d'ailleurs, film de Ron Howard, Rush, qui retrace.
Tu veux dire que c'est aussi bien que Da Vinci Code ou
c'est mieux.
Alors, dernière chose, le Grand Prix Drivers Association, qui était dissous en 82, qui est en fait une association qui joue un rôle consultatif dans les questions liées à la sécurité, composée des pilotes, qui a été dissous en 82
et voilà.
Et voilà, et reformé.
Et reformé après le circuit. Voilà.
À l'occasion
j'ai eu l'absence.
De ce drame.
Toi aussi, t'y arrives pas.
Je n'arrive plus à parler.
De toute façon, t'as dépassé ton quota, c'est fini. Alors, effectivement, va avoir lieu un grand procès suite à la mort. Alors Ratzenberger, non, il n'y a pas eu de procès. Parce que lui, c'était un...
Alors, il faut savoir qu'il y a eu 500 000 personnes au l'enterrement de
Sao Paulo.
À Sao Paulo pour Senna. On a compté, il y en a eu 4 pour Ratzenberger.
C'est horrible.
Donc, quand même, le président de la
FIA,
Max Mosley.
À mon avis, ce brave Max Mosley.
Il avait surtout peur de se faire lyncher, à mon avis.
Ouais, c'est surtout qu'à mon avis, Max Mosley, vu qu'il est d'extrême droite, l'Autriche, il aime bien, quoi. Donc, il va.
Voilà. Il
aura un procès.
Copain.
Il dit j'y suis partout. Allé parce que tout le monde est allé à suite Senna et ben moi je suis allé à l'autre.
Oui, c'est ah, voilà. Moi je suis plutôt trop pied parce que je suis un mec original.
Non mais peut-être que c'est on sait jamais.
Non mais c'est un connard.
Alors 3 ans plus tard la justice italienne inculpe 6 personnes.
Oui.
Ouais.
Quelqu'un peut les énumérer ou
Frank Williams.
Ouais qui était le propriétaire de l'écurie.
Le patron.
Patrick Head.
Ouais. Le copropriétaire et directeur technique de Williams.
Adrian Newey.
Le concepteur de la voiture.
Federico Bendinelli.
Je ne sais pas qui est ce monsieur.
Représentant de l'Autodromo Enzo et Dino Ferrari.
Ouais, c'est le circuit.
Ouais, c'est le propriétaire du circuit. Ouais. Et Giorgio Poggi, le directeur du circuit. Et Roland Brune Serrat, directeur de course.
Tu t'endors,
Sarah. Bravo, Sarah. Bravo.
Vous formiez un bon duo à un moment donné, puis Olivier, ils sont endormis, quoi.
C'est qui a fait ce bruit de cochon?
C'est pas moi, là, je dors. Donc voilà, ils sont tous en procès parce que le mystère demeure quand même sur ce qui s'est vraiment passé.
Qu'est-ce qui s'est passé déjà,
on n'a quand même pas dit de quoi était mort, pour le coup, Ayrton Senna. Je vous rappelle qu'on ne l'a pas dit.
Oui. Il y a 3 théories en fait.
Non mais déjà on peut dire de quoi il est mort avant de savoir comment il est mort.
Oui, il y a 3 théories.
Donc il est mort, et il est mort. On vous le dira pas parce qu'il y a 3 théories. Il est mort d'un
cancer du poumon.
Parce qu'il clopait trop.
Foudroyant.
Cette émission part en lambeaux, hein, comme Ayrton.
Mais non.
Tu couperas ça, j'espère.
Non. Allez, on arrête.
Il y a une suspension de la voiture qui s'est détachée.
Un morceau de suspension qui lui est rentré dans le crâne.
T'aimes bien ça, Younes, le week-end. Ouais.
J'adore, j'en fais tous les week-ends.
Suspension qui
quoi, vous parlez de quoi?
Qui avait été
c'est
modifié.
C'est quoi le thème d'aujourd'hui là?
Qui est rentré dans le crâne?
Vous êtes qui?
Non mais c'est quand même horrible ce qu'on est en train de
dire. Oui, c'est horrible.
Qui est rentré dans le crâne, d'où
je
le sang.
Je précise que ces fous rires sont liés en fait à une émission qui est assez stressante parce que c'est quand même
non mais c'est vrai que c'est hyper tragique.
C'est quand même hyper tragique. Donc perso j'ai eu du mal à préparer ça.
Ah mais moi aussi, enfin déjà le Grand Prix ça a été hyper douloureux de le regarder en intégralité.
Et c'est un peu une explosion là de fous rires, mais on est surtout un peu stressé.
C'est aussi par le fait que tu fasses ton émission complètement nue, Younes. Et ça, c'est quand même quelque chose. T'es sacrément, bien doté, aussi. L'animal.
Je suis chez moi, je fais ce que je veux.
Ça me perturbe aussi. Hein. Ça me perturbe.
Il faut dire qu'il met ça sur sa table. Enfin, tu peux pas le mettre ailleurs, de toute façon. Ça prend la moitié de la table. C'est horrible. J'ai mon ordinateur qui est tout dégueulassé, là.
Oh là là, tu vas beaucoup trop loin.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
Pardon.
Sarah s'est réveillée, tiens.
Il y a quand même un morceau de sa bagnole qui lui est rentré dans le crâne. Ouais. Et ouais. D'où la tache de sang que l'on voit très loin. Et il est pratiquement mort
mort sur le coup. Ouais.
Et d'ailleurs, comme Ratzenberger, ouais. Et c'est d'ailleurs le docteur Ritchie. Qui s'est occupé des deux cas, qui dit que les deux sont morts sur le coup et que de toute façon, à partir du moment où Ratzenberger est mort sur le coup, il aurait dû arrêter la course.
La course aurait dû être arrêtée. Voilà.
Et donc, il y a un procès parce qu'on a envie absolument de savoir qui est le coupable. On veut mettre.
On veut qu'il y ait un coupable.
On veut qu'il y ait un coupable.
On veut une justice.
À travers ça, donc on va attaquer les 6 hommes
cités précédemment.
Susnommés. Et il y a plusieurs hypothèses qui pourraient
expliquer ça. Voilà.
Ah, et théorie.
Et enfin, la première, donc, et celle qui sera finalement adoptée, c'est le fait qu'il y ait sa colonne de direction qui est craquée, qui s'est cassée.
Qui est bloquée. Ouais.
Au moment des warm-up avant, qui était déjà fragilisée et qui. Donc ça c'est non là, donc ça c'est la première hypothèse, hypothèse qui a été relayée et qui a été confirmée ensuite en procès.
Toute la question est de savoir en fait si la colonne de direction a rompu avant ou après le choc.
Voilà, avant ou après, parce que si c'est avant, c'est clairement de la faute.
Une erreur technique.
Une erreur technique. Ouais. Et Williams peut être incriminé. Si c'est après, c'est le choc.
À savoir
et
que
comme par hasard, il n'y a pas la vidéo. Enfin, c'est pas comme par hasard, c'est normal. La vidéo embarquée ne peut pas le montrer parce que la vidéo embarquée, comme Senna, elle est morte dans le choc.
À savoir qu'aujourd'hui, les progrès font que on a de véritables ordinateurs intégrés dans les véhicules et que le moindre mouvement, la moindre nuance sur le véhicule est retransmise automatiquement. Donc, on a une sorte de boîte noire en fait qui se dégage de la course. Et ce genre de détail aujourd'hui serait d'une évidence.
Oui. Donc Williams va utiliser ça
sa stratégie de défense.
Dans sa stratégie de défense, à savoir que c'était
le choc. Il y a aussi Frank Williams qui a essayé un gant qui lui allait pas. C'est ça qui l'a sauvé. Alors deuxième hypothèse.
Deuxième hypothèse, c'est que le sapin qui était à son rétroviseur,
il sentait trop fort.
Les gêné au niveau odorat et lui est rentré dans les yeux, ce qui fait qu'il a pas vu. Du coup,
non mais
il y avait le sapin dans les
troisième hypothèse, c'est les olives qui me grattaient.
Il a essayé, d'enlever une olive qui lui rentrait dans le dos.
Il y a un de ses coéipiers de l'époque, Damon Hill, qui lui évoque, moi je suis le rythme hein, quand même.
Toi, tu veux te coucher à minuit.
Moi je vais être au dodo à minuit. Qu'il y a une possible faute de Senna puisqu'il aurait pris un trop grand risque pendant la course, puisqu'il lui aurait conseillé avant la course de ne pas passer trop à l'intérieur du virage où il est mort parce qu'il y aurait des bosses et que leur voiture
supportait mal.
Or, il va faire exactement ça pendant la course. Et comment expliquer cela? Senna avait déjà 20 points de retard sur Schumacher en championnat. Donc, il aurait pris un vrai risque en fait pour pouvoir gagner cette course.
À savoir que cette théorie est difficilement admise par les fans d'Ayrton Senna
forcément.
On ne veut pas que ce soit lui qui ait fait l'erreur.
Oui, voilà, qu'on lui a imputé l'erreur de son accident.
C'est ça, c'est que pendant le Grand Prix, en direct, la première chose que dit Prost, et ça c'est, il dit à ce moment-là, c'est impossible que ce soit une erreur
de pilotage.
D'ailleurs, on le voit freiner. Je veux dire, il arrive sur les vibreurs sur le truc à 310 km/h, il finit à 200 et quelques. Donc il freine. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a le réflexe.
Il y a aussi une théorie qui dit qu'en fait, il aurait évité un débris qui a été provoqué par le choc au départ entre Leto et l'ami. Effectivement, sur certaines images, on voit au moment des tours de neutralisé, qu'il y a des débris encore, après le départ, le départ de la voiture de sécurité, qu'il y a encore des débris sur la piste, sur le circuit.
En tout cas, il y a suffisamment d'éléments qui sont sur le papier à la fin de cet accident pour finalement brouiller les pistes.
Oui. Troisième hypothèse. On s'en souvient jamais.
Non mais moi j'en ai plusieurs parce qu'il y en a qui disent qu'il aurait pu faire un malaise ou les pneus refroidis dont on a parlé.
On écarte visiblement le malaise définitivement il n'y a pas si longtemps. Il y avait encore des...
Toujours est-il que le procès traîne incroyablement, qu'il y a une série, on va pas revenir parce que c'est
2005.
Extrêmement chiant, mais il y a une série de... ils sont acquittés, plus acquittés, ils sont revenus,
ils passent devant les différentes cours.
Le patron Frank Williams est acquitté avec ses camarades. Il en reste deux.
Ed et Newey.
Ed, on lui dit que c'est de sa faute. Le verdict final, c'est que l'accident était causé par une défaillance.
Il y a une chose qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en fait, Senna a fait revoir sa colonne de direction.
Voilà.
Pour que son volant soit plus près, en fait.
À l'époque en 92, c'est Nigel Mansell qui pilotait avec le volant très près. Prost en 93 avec la Williams déjà se plaignait de cette distance avec le volant chose que aussi Senna ne pouvait pas voir, c'est-à-dire que il avait le volant trop près, il avait ses crises de tétanie là. Et que ça l'empêchait de piloter bien. Il s'en est plaint. On a resserré à ce moment-là la colonne de direction pour que le volant soit plus... Et comme on l'a fait avec de la colle UHU stick...
ça n'a pas bien collé.
C'est pas celle qui tient le mieux.
Non.
Mais au final, quand même, tout le monde va être acquitté. Il y a aussi des vices de procédure, etc.
Après, c'est compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais effectivement, il y aurait une rupture de la colonne de direction par rapport à ça. Quoi dire d'autre? Vous avez d'autres choses à dire sur ce procès, peut-être?
Non, mais ce
Grand Prix était assez triste. Globalement, on n'a pas passé un très bon moment.
Ouais, c'est assez terrible.
Que c'était dur et que c'était la première fois
enfin l'une des premières fois qu'on voyait une mort comme ça en direct.
Et d'ailleurs, dans le monde du sport.
C'est une très belle transition parce que je crois qu'on va un petit peu en parler dans le contrôle antidoping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle antidoping. Donc il fallait faire la petite chose.
Alors c'est Younes qui se colle. Ouais. T'as fait pipi dans l'éprouvette, Younes.
Ouais, et j'ai passé un super moment en fait, parce que effectivement, c'est pas si simple de finalement revoir des images où on a finalement des victimes en direct.
C'est très rare de voir.
Sachant
quand même
qu'on est mort
dans le monde du.
Voilà,
sport,
et sachant que même on déclenche le player souvent, on a accès aujourd'hui à plein de vidéos et sachant qu'on déclenche le player pour voir finalement un instant tragique, c'était pas forcément super. Ouais. Mais néanmoins, voilà, j'ai quand même fait cette épreuve et derrière, en fait, j'ai fait un peu un classement, notamment des sports qui sont les
des morts les plus marrants.
Ouais, non, voilà. Une sorte de vidéo gag funeste. Non, j'ai mis en fait dans une liste les sports qui créent et qui provoquent le plus de morts.
Ouais, c'est le ping-pong comme en premier, évidemment.
C'est un peu ça, voilà, le ping-pong crée des. En fait, la Formule 1, donc les courses automobiles. J'inclus dedans en fait les 24 heures du Mans parce qu'il y a eu énormément de victimes et forcément des légendes comme ça qui se sont créées autour de cette course parce que justement cette course est dangereuse.
Le Paris-Dakar, c'est pas mal non plus.
Paris-Dakar, c'est pas mal.
Aussi pour les spectateurs. Hein.
Aussi pour les pauvres sur lesquels on est dessus.
Exactement. En général, les sports auto n'ont pas forcément bonne presse parce que forcément il y a beaucoup de dégâts, notamment des dégâts humains et ils sont quasiment en haut de la liste. Le cyclisme est juste derrière,
bien sûr.
Pas très loin.
J'ai un très mauvais souvenir de 95, je crois.
95, année du sacre de Lance Armstrong. Ouais. Et
déjà ?
Ouais, je crois.
C'était pas
J'ai un doute.
C'était pas
en tout cas, ça me fait rebondir sur ce mort qui s'appelle Fabio Casartelli et qui est mort à 25 ans, tombé dans un ravin.
En fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que moi, je m'en souviens parce que
tu avais vu.
En fait, mon père. Il faut savoir pour la petite anecdote, je vais pas rentrer dans les détails. Mon père s'était opéré du genou cet été-là. Et du coup, il a suivi.
Comment il va, ton papa ?
Depuis 95, ça va. Hein.
C'était bien dimanche. Hein.
Oui, c'était bien, on a perdu 2-0. Quoi. Enfin bref, il avait regardé toutes les épreuves en direct. Et effectivement,
et là, on était à la 15e étape.
Ce qui s'était passé, c'est qu'il était dans l'équipe d'Armstrong, je me souviens.
C'est ça. Ouais.
Et ce coureur, en fait, a chuté et s'est tapé la tête sur une borne kilométrique.
C'est horrible.
C'est très, très dur.
Donc c'était au col de Portet d'Aspé. 15e étape. Et aujourd'hui encore, quand on fait cette étape, forcément, il y a une minute de silence qui est introduite pendant la course.
95, je te coupe juste parce que c'est pour pas qu'on ait. Ouais. Les... Ouais. 95, c'est une Durenne.
Pour la petite anecdote, Armstrong a gagné l'étape le lendemain.
Et a levé sa victoire à son coéquipier. Le football arrive très près.
Ah ouais.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette Coupe des Confédérations.
Bien sûr.
Avec ce joueur qui était cher au cœur des Français, parce qu'il évoluait très longtemps au championnat de France, notamment à Lyon.
Et à Lens et à Lyon.
Et c'est Marc-Julien Fauet, international camerounais. C'est pendant le match Cameroun-Colombie. Et je vous dis exactement la minute à laquelle il tombe, à la 72e minute, après un duel et un effort, il tombe au sol. Mario Yepes, défenseur colombien, se précipite près de Marc-Julien Fauet et tout de suite comprend que quelque chose d'anormal arrive. Et on assiste quasiment en direct à son arrêt cardiaque. Ouais. Et forcément un trauma. Alors, encore une fois, une mort en direct, c'est quelque chose d'assez pesant. C'était au stade Gerland, donc pour les plus jeunes, c'était le stade de Lyon, avant que le Lyon ne déménage dans son nouveau stade.
Dans son outil connecté.
Voilà, c'est ça. Et donc voilà, le football n'a pas qu'une seule victime, il y en a de nombreuses, et il y en a un autre qui touche un peu plus les Espagnols, nos voisins. C'est Antonio Pérez, un joueur du FC Séville, qui est mort, lui, cette fois-ci à 22 ans, sur un match FC Séville face au Getafe. Et pour la petite histoire, son capitaine de l'époque et ancien collègue du FC Séville, Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid et un temps de la sélection espagnole, lui rend hommage sur les différents titres de l'Espagne qui était quasiment invincible pendant la fin des années 2000 et porte un t-shirt avec son visage à la victoire de la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe de l'équipe d'Espagne.
Et moi, Fauet, je m'en souviens, j'ai vu ça.
Ouais.
Je regardais.
Ouais.
C'était, c'est vraiment bien. Les yeux, il s'est convulsé. Ouais. C'est, ouais. Et là, on sait tout de suite qu'il y a quelque chose. En plus, le pauvre, quoi. Le mec meurt à une coupe des confédérations, quoi. Ouais, c'est terrible.
Non, mais c'est sûr. Et puis, c'est pénible, d'autant plus que pendant 45 minutes, en fait, il y a eu une des tentatives de réanimation. Ouais. Giroud, à l'époque, qui commentait en fait le match, explique qu'il est inconcevable de poursuivre aussi ce match. Mmh. Alors on est un peu sur les mêmes commentaires qu'Alain Prost, mais cette fois-ci dans le football, et de mettre toujours en avant en fait ce spectacle avant même ne serait-ce que les intérêts des joueurs et finalement le jeu. Olivier, peut-être.
Non,
que...
vas-y.
Voilà.
C'est juste que la France arrive avec le Cameroun en finale, du coup, le Cameroun est en finale, et la France rend hommage
à Marc Vivien Fouet.
À Marc Vivien Fouet.
Exactement. Donc la France remporte cette Coupe des Confédérations. Et là, je retombe un peu sur mes pieds et je parle de Formule 1 encore une fois parce que finalement, après Ayrton Senna, qui a laissé finalement un héritage de sécurité qui a protégé les pilotes, on a Jules Bianchi qui est mort à 25 ans et en 2015 exactement à Suzuka sur une erreur du circuit pendant une évacuation. Une grue, Caterpillar, se charge finalement de nettoyer la piste. Et à ce moment-là, Jules Bianchi fait une sortie et percute ce Caterpillar. Et en tout cas, un accident tragique qui l'emmène sur 9 mois de coma qui finissent tragiquement par libérer Jules Bianchi d'une souffrance un peu trop longue. Donc voilà, c'était super fun, joyeux.
C'est sympa ta chronique. Hey,
c'était super joyeux, mais forcément, ça implique aussi que on peut regarder les sportifs un peu différemment parce que dans certains sports, alors j'en passe, il y a eu des morts chez les alpinistes, effectivement.
Ouais.
Oui, rugby, sûrement aussi.
Au rugby, énormément. Ouais. Enfin, énormément. Comparé à la Formule 1, c'est pas grand-chose. Il y en a eu au bobsleigh, enfin, dans toutes les disciplines. Ouais. Les joueurs, les sportifs prennent des risques.
En ski aussi.
Les normes de sécurité. Alors, au rugby, il y en a eu pas mal post-match et pas forcément directement
à l'entraînement. Mais il y a un jeune du top de Pro D2 qui.
Mais alors, effectivement, en préparant cette rubrique, je me suis posé la question de savoir si j'allais à un moment donné m'intéresser aussi au post-trauma. Donc, effectivement, Jules Bianchi, à un moment donné, j'ai un peu hésité parce que finalement, il a eu son accident en direct. Et c'est pas un accident qui, finalement, scelle son sort tout de suite, mais c'est après 9 mois de coma. C'est un peu comme parler de Michael Schumacher, finalement, après son accident. Mais bon, je me suis dit que ça faisait encore une lumière sur ce sport qui reste un sport très dangereux. Et dont, si vous vous intéressez à la Formule 1 encore une fois, tous les week-ends, on a tout le temps des incidents. Aujourd'hui, on appelle ça des incidents parce que finalement, les normes de sécurité sont très élevées. Mais ça peut arriver encore.
Merci Younes pour cette chronique qui nous a bien mis la pêche.
Vous savez ce que je vais faire ce soir ? Je vais me suicider. Voilà.
Non, c'est pas ça.
Ah bah écoutez, ça va.
C'était un sombre épisode de PO. C'est pour ça qu'on a aussi peut-être un peu craqué à certains moments.
Oui, on tient à s'excuser auprès des familles, on tient à s'excuser auprès des gens.
On adore Senna, je l'ai mis en fond d'écran sur mon téléphone.
Ça a pu choquer. Non, mais effectivement, c'était une forme de soupape, c'est rire, c'est pourri.
C'était un des plus durs à préparer. Ce Grand Prix, sauf pour les âmes sensibles, je conseille quand même. C'est un vrai film. Enfin, ce Grand Prix, c'est un film.
Ouais.
Ça dure 2 heures. On vire dans le drama. C'est terrible, c'est tragique. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est. Pas dire c'est savoureux parce que ce serait sordide, mais.
Et pour les gens
ça vaut le coup d'œil pour les gens qui
et pour les gens qui.
Non, mais c'est pour comprendre aussi la F1, pour comprendre aussi les obligations du sportif de haut niveau face à une pieuvre un peu et ses tentacules. Du fric et du spectacle, tout pour le fric et tout pour le spectacle, c'est intéressant.
Et pour les plus jeunes et pour ceux qui ignorent même ce domaine, intéressez-vous à la vie d'Ayrton Senna et pour comprendre un petit peu l'impact que ça a pu avoir dans le monde du sport, c'est un personnage assez incroyable.
Et sur ces mots, on va se quitter. On se retrouve le mois prochain, j'espère, pour un sujet un petit peu plus léger.
Pas sûr.
Bye bye. Salut.
Bye bye. Salut.